Chapitre 4. En passant sous l'Odéon, le roman de Julius exposé frappa ses regards. C'était un livre à couverture jaune, dont l'aspect seul eût fait bâiller l'Afcadio tout autre jour. Il tâta son gousset et jeta un écu de 100 sous sur le comptoir. « Quel beau feu pour ce soir » pensa-t-il, en emportant livre et monnaie. À la bibliothèque, un dictionnaire des contemporains retraçait en peu de mots la carrière amorphe de Julius, donnait les titres de ses ouvrages, les louait en termes convenus, propres à rebuter tout désir. « Pouah !» fit l'Afcadio. Il allait refermer le dictionnaire quand trois mots de l'article précédent, entrevu, le firent sursauter. Quelques lignes au-dessus de « Julius de Baralioul, comte, dans la biographie de Juste Agénor, l'Afcadio lisait « Ministre à Bucarest, en 1873 ». Qu'avaient ces simples mots à faire ainsi battre son cœur? L'Afcadio, à qui sa mère avait donné 5 oncles, n'avait jamais connu son père. Il acceptait de le tenir pour mort et s'était toujours abstenu de questionner à son sujet. Quant aux oncles, chacun de nationalité différente, et 3 d'entre eux dans la diplomatie, il s'était assez vite avisé qu'il n'avait avec lui d'autre parenté que celle qu'il plaisait à la belle Vanda de leur prêter. Or, l'Afcadio venait de prendre 19 ans. Il était né à Bucarest en 1874, précisément à la fin de la seconde année où le comte de Baralioul y avait été retenu par ses fonctions. Mis en éveil par cette visite mystérieuse de Julius, comment n'aurait-il pas vu là plus qu'une fortuite coïncidence? Il fit un grand effort pour lire l'article Juste Agénor, mais les lignes tourbillonnaient devant ses yeux. Tout au moins comprit-il que le comte de Baralioul, père de Julius, était un homme considérable. Une joie insolente éclata dans son cœur, y menant un tel tapage qu'il pensa qu'on allait l'entendre au dehors. Mais non, ce vêtement de chair était décidément solide, imperméable. Il considéra sournoisement ses voisins, habitués de la salle de lecture, tous absorbés dans leur travail stupide. Il calculait. Né en 1821, le comte aurait 72 ans. « Ma, qui ça se vive ancora ?» Il remit en place le dictionnaire et sortit. L'azur se dégageait de quelques nuages légers que bousculait une brise assez vive. « Importa di domesticare questo nuovo proposito », se dit l'Afcadio, qui prisait par-dessus tout la libre disposition de soi-même. Et, désespérant de mettre au pas cette turbulente pensée, il résolut de la bannir pour un moment de sa cervelle. Il tira de sa poche le roman de Julius et fit un grand effort pour s'y distraire, mais le livre était sans détour ni mystère, et rien n'était moins propre à lui permettre de s'échapper. C'est pourtant chez l'auteur de cela que demain je m'en vais jouer au secrétaire, se répétait-il malgré lui. Il acheta le journal à un kiosque et entra dans le Luxembourg. Les bancs étaient trempés. Il ouvrit le livre, s'assit dessus et déploya le journal pour lire les faits divers. Tout de suite, comme s'il avait su devoir les trouver là, ses yeux tombèrent sur ces lignes. La santé du comte Juste Agénor de Baralioul, qui, comme l'on sait, avait donné de graves inquiétudes ces derniers jours, semble devoir se remettre. Son état reste néanmoins encore précaire et ne lui permet de recevoir que quelques intimes. L'Afcadio bondit de dessus le banc. En un instant, sa résolution fut prise. Oubliant le livre, il s'élança vers une papeterie de la rue Médicis, où il se souvenait d'avoir vu, à la devanture, promettre des cartes de visite à la minute à 3 francs le 100. Il souriait en marchant. La hardiesse de son projet subite l'amusait, car il était en mal d'aventure. « Combien de temps pour me livrer 100 de cartes ? » demanda-t-il au marchand. « Vous les aurez avant la nuit. Je paie le double si vous les livrez dès 2 heures. » Le marchand feignit de consulter son livre de commande. « Pour vous obliger, oui, vous pourrez passer les prendre à 2 heures. »« À quel nom ?» Alors, sur la feuille que lui tendit l'homme, sans trembler, sans rougir, mais le cœur un peu sursautant, il signa « L'Afcadio de Baralioul ».« Ce faquin ne me prend pas au sérieux, se dit-il en partant, piqué de ne recevoir pas un salut plus profond du fournisseur. » Puis, comme il passait devant la glace d'une devanture. « Il faut reconnaître que je n'ai guère l'air Baralioul. Nous tâcherons d'ici tantôt de nous faire plus ressemblants. » Il n'était pas midi. L'Afcadio, qu'une exaltation fantasque emplissait, ne se sentait point d'appétit encore. « Marchons un peu d'abord, ou je vais m'envoler, pensait-il, et gardons le milieu de la chaussée. Si je m'approche d'eux, ces passants vont s'apercevoir que je les dépasse énormément de la tête. Une supériorité de plus à cacher. On n'a jamais fini de parfaire un apprentissage. » Il entra dans un bureau de poste. Place Malesherbes, ce sera pour tantôt, se dit-il, en relevant dans un annuaire l'adresse du comte juste à Génor. Mais qui m'empêche ce matin de pousser une reconnaissance jusqu'à la rue de Verneuil ? C'était l'adresse inscrite sur la carte de Julius. L'Ascadio connaissait ce quartier et l'aimait. Quittant les rues trop fréquentes, il fit détour par la tranquille rue Vanneau, où sa plus jeune joie pourrait respirer mieux à l'aise. Comme il tournait la rue de Babylone, il vit des gens courir. Près de l'impasse Oudino, un attroupement se formait devant une maison à deux étages, d'où sortait une assez maussade fumée. Il se força de ne point allonger le pas malgré qu'il eût très élastique. « L'Ascadio, mon ami, vous donnez dans un fait divers et ma plume vous abandonne. N'attendez pas que je rapporte les propos interrompus d'une foule, les cris. » Pénétrant, traversant cette tourbe comme une anguille, l'Ascadio parvint au premier rang. Là sanglotait une pauvresse agenouillée. « Mes enfants, mes petits-enfants » disait-elle. Une jeune fille la soutenait, dont la mise, simplement élégante, dénonçait qu'elle n'était point sa parente. Très pâle et si belle qu'aussitôt attirée par elle, l'Ascadio l'interrogea. « Non, monsieur, je ne la connais pas. Tout ce que j'ai compris, c'est que ces deux petits-enfants sont dans cette chambre au second, où bientôt vont atteindre les flammes. Elles ont conquis l'escalier. On a prévenu les pompiers, mais le temps qu'ils viennent, la fumée aura étouffé ces petits. Dites, monsieur, ne serait-il pourtant pas possible d'atteindre au balcon par ce mur ? Et, voyez, en s'aidant de ce mince tuyau de descente, c'est un chemin qu'ont déjà pris une fois des voleurs, disent ceux-ci. Mais ce que d'autres ont fait pour voler, aucun ici pour sauver des enfants n'ose le faire. En vain j'ai promis cette bourse. Ah ! Que ne suis-je un homme ? » L'Ascadio n'en écouta pas plus long. Posant sa canne et son chapeau au pied de la jeune fille, il s'élança. Pour agripper le sommet du mur, il n'eut recours à l'aide de personne. Une traction le rétablit. À présent, tout debout, il avançait sur cette crête, évitant les tessons qui la hérissaient par endroits. Mais l'ébahissement de la foule redoubla lorsque, saisissant le conduit vertical, on le vit s'élever à la force des bras, prenant à peine appui de ci de là, du bout des pieds, au piton de support. Le voici qui touche au balcon, dont il empoigne d'une main la grille. La foule admire et ne tremble plus, car vraiment son aisance est parfaite. D'un coup d'épaule, il fait voler en éclats les carreaux, il disparaît dans la pièce, moment d'attente et d'angoisse indicible. Puis on le voit reparaître, tenant un marmot pleurant dans ses bras. D'un drap de lit qu'il a déchiré et dont il a noué bout à bout les deux laits, il l'a fait une sorte de corde. Il attache l'enfant, le descend jusqu'au bras de sa mère éperdue, le second a le même sort. Quand l'Ascadio descendit à son tour, la foule l'acclamait comme un héros. « On me prend pour un clown, » pensa-t-il, exaspéré de se sentir rougir et repoussant l'ovation avec une mauvaise grâce brutale. Pourtant, lorsque la jeune fille, de laquelle il s'était de nouveau rapproché, lui tendit confusément, avec sa canne et son chapeau, cette bourse qu'elle avait promise, il la prit en souriant et, l'ayant vidée des 60 francs qu'elle contenait, tendit l'argent à la pauvre mère qui maintenant étouffait ses fils de baisers. « Me permettez-vous de garder la bourse en souvenir de vous, mademoiselle ?» C'était une petite bourse brodée, qu'il baisa. Tous deux se regardèrent un instant. La jeune fille semblait émue, plus pâle encore et comme désireuse de parler. Mais brusquement s'échappa l'Ascadio, fendant la foule à coups de canne, l'air si froncé qu'on s'arrêta presque aussitôt de l'acclamer et de le suivre. Il regagna le Luxembourg, puis, après un sommaire repas au Grand Binus, voisin de l'Odéon, remonta prestement dans sa chambre. Sous une latte du plancher, il dissimulait ses ressources. 3 pièces de 20 francs et 1 de 10 sortirent de la cachette. Il calcula. Carte de visite, 6 francs. Une paire de gants, 5 francs. Une cravate, 5 francs. Et qu'est-ce que je trouverais de propre pour ce prix-là ? Une paire de chaussures, 35 francs. Je ne leur demanderai pas long usage. Reste 19 francs pour le fortuit. Par horreur du devoir, l'Ascadio payait toujours comptant. Il alla vers une armoire et sortit un complet de souples cheviottes sombres, de coupe parfaite, point fatigué. « Le malheur, c'est que j'ai grandi depuis, » se dit-il, en se ressouvenant de la brillante époque, non lointaine, où le marquis de Gesvres, son dernier oncle, l'emmenait tout fringant chez ses fournisseurs. La malséance d'un vêtement était pour l'Ascadio choquante, autant que pour le calviniste un mensonge. Au plus pressé d'abord, mon oncle de Gesvres disait qu'on reconnaît l'homme aux chaussures. Et par égard pour les souliers qu'il allait essayer, il commença par changer de chaussettes.